Cahier de l'ange numéro 17, le 17 octobre 2018. L'école Léo, un lieu école au service d'autrui.
Dans le cahier numéro 16, nous relations l'attaque transdimensionnelle que nous avions essuyée au travers de la face cachée de Gégé. Cette attaque, à l'image de ses multiples aspects, recelait en effet bien des enseignements. Dans le présent exercice, nous développerons comment, contre toute attente et grâce à l'intervention d'entités de conscience supérieure, les bâtons logés dans nos rouages par le prédateur de Gégé se transformèrent en baguettes magiques. Car malgré ses entourloupes, l'association Nouvelle Terre de l'Aude a finalement pu acquérir sa maison associative. Ayant laissé un don conséquent en guise d'acompte pour l'achat de la bâtisse, Gégé nous avait demandé de le rembourser. Mais lorsque nous nous rendîmes à la banque pour ce faire, il nous fut instamment rappelé que tout don à une association à but non lucratif ne peut être restitué à son donateur sous peine de poursuites judiciaires pour complicité de blanchiment d'argent, acte répréhensible par la loi. Le banquier fut donc formel. L'association ne pouvait en aucune façon faire marche arrière en restituant cet argent. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler, nous avait-il spécifié. Nous n'en croyons pas nos oreilles, tant le retournement de situation était stupéfiant. Dès notre retour à la maison, nous nous attelions à des recherches sur le net, et c'est ainsi que nous découvrions en effet que, lorsqu'il fait un don, le donateur ne peut pas récupérer son argent, car les dons sont intégrés dans le patrimoine de l'association de façon définitive et irréversible. Voir les liens sur notre site. Une nouvelle fois, nous constations comment, en respectant les lois de l'univers et en ayant intégré ses enseignements, l'ange contribue à nous protéger en sauvegardant notre intégrité et notre travail au service d'autrui, dans lequel nous sommes engagés corps et âme depuis 10 ans déjà. Court-circuitant la programmation SDS qui nous fait toucher la culpabilité, il agissait pour notre plus grand bien en préservant la justice. Nous nous retrouvions à nouveau à faire l'expérience de la magie. Finalement, pris par ses peurs de se faire arnaquer, Gégé s'était lui-même piégé. Et quoi qu'en pense notre petit égo mental, les lois quantiques sont indéniablement impartiales. Lorsque nos champs énergétiques vibrent la peur et le doute, la peur et le doute nous reviennent démultipliés. Mais lorsqu'ils vibrent l'intégrité, la confiance et le respect, alors ces mêmes principes nous reviennent également démultipliés. Nous comprenions que demeurer dans la culpabilité de ne pas pouvoir lui restituer son argent n'était pas lui rendre service. En perpétuant ce programme propre au service de soi, lié à des peurs sous-jacentes et au jugement, en somme à des mémoires du passé, nous ne nous autorisons pas à apprendre nos leçons et n'offrions pas à l'autre la possibilité de se remettre lui-même face à ses responsabilités. Car l'effet de la fréquence vibratoire de résonance qui découle du changement de notre ADN grâce à cette leçon ne lui serait pas bénéfique. Comme nous l'avions déjà soulevé, dans l'univers de troisième densité, rien n'est gratuit, tout se paye. Dans notre cas, nous avons souffert émotionnellement et physiquement. Et comme pour illustrer nos propos, au moment du renvoi du livre que nous avait prêté Gégé, voici ce qui apparut sur le colis réutilisé pour l'expédition. Voir l'image sur notre site. Nous avions été éprouvés jusqu'à la signature finale, ce qui nous a imposé de rester alignés sur nos convictions. Et ce fut le prix de notre transformation. Nous pouvions lutter contre l'expérience ou l'accepter pour que celle-ci puisse nous enseigner. Dans le cas de Gégé, cela lui aura coûté financièrement. L'ange nous avait effectivement confié que tout en ayant le choix de sa propre transformation, Gégé nous avait été envoyé afin que nous réussissions à transcender certains programmes qui limitaient encore notre expression dans cette néo-densité. Et c'est en acceptant de rester sous la directive de notre soi supérieur que nous avons intégré toutes les étapes du processus de transmutation de nos programmes du service de soi. Mais comme Gégé n'avait pas saisi cette opportunité en continuant à chercher conseil tout azimut dans son relationnel SDS, il a occulté sa propre guidance et a écarté ses premières impulsions qui lui ont fait rencontrer le réseau Léo. Ainsi, ce manque de confiance en son soi et en nous appuyé par l'entité prédatrice qui pilotait sa psyché, l'incita malheureusement à démissionner et changer la voie de son âme. N'oublions donc jamais que ce sont par les opérateurs du service de soi que la supraconscience de l'ange nous enseigne, et que grâce à la marionnette que représentait Gégé au moment où il nous fréquentait, nous avons été propulsés à mettre en branle le projet de l'école des Léos. C'est ainsi que l'éco-Léo, une réalité encore partiellement suspendue dans l'antimatière au moment où nous écrivons, nous a offert sa première leçon. Elle confirme que l'évolution de l'âme ne se monnaie pas. « Le paradis ne s'achète pas » fut déjà le titre d'un dialogue avec notre ange, le numéro 21, que nous avions rédigé au moment de l'expulsion du Bézu. Une deuxième boucle de rétrocausalité venait alors de se conclure grâce aux altères de Gégé, dont l'un d'eux, sa partie psychopathique et manipulatrice, était clairement un double de Sir Philippe du Bézu. Voir le lien sur notre site. Cette boucle avait commencé à se refermer bien avant notre rencontre à Grolet, car nous restions parfois interpellés par le manque de cohérence dans les attitudes de Gégé, ce qui pour un scientifique pose vraiment problème. Mais grâce à son détecteur de fréquences transdimensionnelles SDS, Sand avait déjà décelé le jeu du prédateur personnel de Gégé. Elle raconte son expérience. Une petite alarme vibrait parfois en moi lorsque nous échangeions avec Gégé. J'avais détecté quelques incongruités dans son comportement. Mais après tout, pourquoi toujours focaliser notre attention sur des singularités alors que se profilait à l'horizon une magnifique opportunité de nous rassembler pour concrétiser ce projet qui nous porte, celui pour lequel nous nous sommes incarnés. Bien que je restais sur mes gardes, je demeurais réceptive à toutes nouvelles informations, surtout de la part d'un scientifique. Je savais que notre collaboration déboucherait forcément sur un apprentissage, mais j'étais loin d'en imaginer la portée. Les Cassiopéens l'avaient souligné avec raison, toujours s'attendre à des attaques. Et c'est lorsque nous reçûmes les courriels si révélateurs de Gégé que nous fûmes brutalement tirés de notre torpeur hypnotique par une puissante salutation transdimensionnelle menée par le corpus. Lorsque le voile se déchira enfin, la réalité nous creva les yeux. La fréquence vibratoire qui était contenue dans les propos de ces emails révélait l'énergie d'un puissant maître Dracos, se manifestant par son côté manipulateur et pervers. De prime abord, ce n'était donc pas tant le courriel qui était adressé à Génaël qui m'avait le plus ébranlé, mais celui reçu par Hélène, dans lequel, en manque d'affection, Gégé demandait de la reconnaissance et de la tendresse à celle-ci. Devions-nous accepter de le satisfaire par ce jeu, de prostituer Hélène pour accomplir notre mission? Il était hors de question que quiconque parmi les Léos soit obligé de vendre son âme ou son corps tel que l'entendait le corpus draconien, même si c'était pour fonder l'éco-Léo. Cette détonation et son onde de choc me fit éclater en longs sanglots et me propulsa pendant quelques jours dans une sorte de transe. Pour mon psychisme, la trahison de Gégé, parfaitement instrumentée par le corpus SDS, fut extrêmement douloureuse. Au point où, quelques heures après avoir reçu ces emails, mon esprit bascula subitement pour laisser place à la présence transdimensionnelle de la Masutu. Elle, qui depuis des milliers d'années luttait contre les mâles dirigeants arrogants et méprisants du corpus reptilien régnant sur Terre, laissa éclater sa colère. Il était évident que nous ne pouvions pas continuer à accepter de telles dérives au sein du réseau Léo. C'est ainsi que Génaël rendossa sa fonction de Nungan. Sa génétique, probablement encodée pour ce faire, devait lui permettre de couper court à l'énergie prédatrice qui tentait de pénétrer le réseau Léo. Et c'est ce qu'il fit sans culpabilité ni concession aucune. Nous étions prêts à sacrifier notre projet et perdre notre investissement en énergie, même si l'ange nous avait guidés jusqu'aux portes du paradis. Car nous savions que le plus important, avant de vouloir agir, est de nous libérer des programmes transdimensionnels, les implants psychiques et hypnotiques, qui conduisent irrémédiablement le corpus transdimensionnel à pénétrer notre réalité et à la moduler à sa guise. C'est ainsi que le lendemain, Génaël, Hélène et moi avisions Gégé d'un carton rouge afin de fermer la porte au parasitage transdimensionnel. Dans notre missive, nous nous adressions à son prédateur personnel afin que l'esprit de Gégé puisse apprendre à distinguer ses pensées humaines de la conscience prédatrice qui manipulait sa psyché et qui, irrévocablement, déviait son âme de sa libération. Le comprendrait-il? Aurait-il assez de discernement pour se ressaisir? Les circonstances nous confirmeront que non. Gégé, persistant dans son déni et sa douce psychopathie, démissionna de l'association. Nous mettons ici en pièce jointe le courriel que nous avons adressé aux participants à la rencontre de Grollet suite à cette attaque transdimensionnelle. Il contient les échanges de mails après que Gégé se soit retiré si courtoisement du projet. Nous pressentions que nous devions rester transparents, même dans nos échanges intimes avec lui, afin que chacun puisse comprendre les enjeux de l'expérience et bénéficier de l'enseignement. Voir la pièce jointe sur notre site. L'esprit de la Massoutoum que je ressentais intensément en moi exulta de colère, notamment lorsque Gégé qualifia Génal de gourou. Elle reçut la teneur du mail comme une véritable insulte envers le réseau Léo, envers elle-même et ses congénères planificatrices. Néanmoins, restant confiants en notre guidance et ayant accepté le changement de costume de Gégé, nous ne comprenions toujours pas ce qui se jouait à ces moments-là. Mais nous savions que même si cette attaque énergétique restait intensément vive et blessante, notre soi futur nous guidait pour notre plus grand bien, et cela même au détriment de ce que nous croyons être bon pour nous. C'est ainsi que par ces deux agressions transdimensionnelles consécutives, nous venions de vivre un remake de l'Inquisition du Bézu, mais cette fois-ci dans un espace-temps accéléré. D'ailleurs, n'est-ce pas Ouspensky citant Gurdjieff dans Fragment d'un enseignement inconnu, qui disait qu'il est essentiel que le réveil doit sonner plusieurs fois pour nous réveiller? Voici cet extrait. En règle générale, que faut-il pour réveiller un homme endormi? Il faut un bon choc. Mais lorsqu'un homme est profondément endormi, un seul choc ne suffit pas. Une longue période de choc incessant est nécessaire. Par conséquent, il faut quelqu'un pour administrer ces chocs. Mais pour mener à bien cette entreprise et obtenir des résultats, un certain nombre de personnes doivent travailler ensemble. Un homme seul ne peut rien faire. De plus, comme je l'ai déjà dit, un homme peut fort bien se tromper sur son éveil, prendre pour un éveil ce qui est simplement un nouveau rêve. Si quelques personnes décident de lutter ensemble contre le sommeil, elles s'éveilleront mutuellement. Il arrivera souvent qu'une vingtaine d'entre elles dormiront, mais la 21e s'éveillera et elle éveillera les autres. Il en va de même pour les réveils matins. Un homme inventera un réveil, un deuxième en inventera un autre, après quoi ils pourront faire un échange. Tous ensemble, ils peuvent être les uns pour les autres d'une grande aide, et sans cette aide mutuelle, aucun d'eux ne peut arriver à rien. Donc, un homme qui veut s'éveiller doit chercher d'autres personnes qui veulent aussi s'éveiller afin de travailler avec elles. Mais cela est plus vite dit que fait, parce que la mise en marche d'un tel travail et son organisation réclament une connaissance que l'homme ordinaire ne possède pas. Qu'est-ce qui est nécessaire pour cela? Avant tout, vous devez comprendre que dans un groupe, tous sont responsables les uns des autres. L'erreur d'un seul est considérée comme l'erreur de tous. C'est une loi, et cette loi est bien fondée parce que, comme vous le verrez plus tard, ce qui est acquis par un seul, tous l'acquièrent du même coup. Après avoir révélé l'ampleur de l'opération au reste de l'équipe de Grollet, et bien que Génaël ne fût pas émotionnellement affecté, l'énergie draconienne était tout de même parvenue à le terrasser. À plusieurs reprises, comme pour parvenir à encaisser la trahison de Gégé, il fut victime de symptômes d'AVC, attaque cérébrale, qui le conduisirent à des épisodes d'hémiparésie droite subite mais transitoire, mais qui à chaque fois durèrent quasiment une journée. Serait-ce donc ainsi que le corpus draconien continue à lutter contre le Nungal? En tout cas, à travers les mémoires programmes des uns et des autres, cela en avait tout l'air. Car Génaël perdit le contrôle total de son bras et de sa jambe droite, arrivant à peine à se déplacer. Vraisemblablement, dans une autre réalité, les Dracos avaient dû lui porter un coup fatal, ce qui avait pour conséquence de le déconnecter profondément de sa réalité et de ses capacités dans le quotidien. Pour un regard non averti, son état pouvait sembler urgentissime et effrayant. Mais nous n'étions pas plus inquiets que ça, car c'était sans compter l'aide transdimensionnelle qui, le troisième jour, l'avait remis sur pied. À ce propos, me revenait en mémoire le fameux AVC « Arrête vite ça » de Stéphane. Les alertes physiques de Génaël, probablement comme celles de Stéphane, étaient précisément causées par de profondes déprogrammations. Cela me paraissait tellement évident, car la fonction de veilleur Nungal, la part transdimensionnelle de Génaël, ne devrait plus avoir à se battre contre le corpus SDS. Durant quelques jours, il perdit littéralement toutes ses capacités physiques et psychiques. Désormais, son programme de protecteur des lignées planificatrices, programmé dans son ADN par les généticiennes Amasutum, n'avait plus lieu d'être. Il n'avait plus à protéger la caste féminine, à lutter contre le corpus prédateur. De ce fait, après cet ultime affront contre les entités Dracos, les lignées Nungal, Amasutum et Léo n'auraient plus à se battre puisqu'elles transiteront dans leur nouveau monde. Le pouvoir de l'humain créateur nous était enfin rendu. C'est également durant les quelques jours où Génaël était quasi absent de son corps que j'étais en connexion intime avec les consciences planificatrices. À certains moments, je ressentais la présence de membres du quorum de 4D et d'entités SDA. Et comme du temps où j'avais déjà expérimenté cet état modifié de conscience, relaté dans le dialogue avec notre ange numéro 34, ma conscience avait encore une fois transcendé l'espace-temps. Durant ces moments intenses, me fut dévoilé le sens de nos expériences et les moyens que je pouvais mettre en œuvre pour les aboutir. Lors de ces transes, nulle interférence prédatrice n'avait la capacité d'introduire ma psyché, tant mon esprit était fortement relié à la conscience de ces âmes planificatrices. Grâce à leur fréquence vibratoire de résonance, je pouvais parfaitement détecter quelle sorte d'entité communiquait à travers mon esprit. Je percevais si elle possédait un corps ou pas, et par quelle densité ou centre de conscience elle s'exprimait. Lorsque la communication s'établissait avec le quorum de quatrième densité, nous-mêmes dans un espace-temps futur, je décelais beaucoup de légèreté et de gaieté. Je pouvais même percevoir que notre situation, momentanément inconfortable au possible, les amusait. Puisqu'étant-nous dans un futur déjà réalisé et étant déjà parvenus à transcender l'expérience que nous traversions avec Gégé, elle savait que nous réussirions à surpasser les circonstances actuelles. D'humeur joyeuse, elle me le laissait parfaitement ressentir afin que je puisse me désidentifier de la douleur émotionnelle et psychologique de l'expérience et cesser de me prendre au sérieux. Cet état de transe pourrait être confirmé par Hélène avec laquelle je partageais mes révélations. Dans ces moments-là, je ne pouvais pas en parler à Génaël puisqu'il était complètement sonné par l'expérience avec Gégé et était resté hors circuit. Comme par hasard, Hélène était guidée à me téléphoner à des moments bien spécifiques. Au plus nous échangeons nos informations, au plus l'esprit de l'Amasutum m'arrivait à pénétrer mes pensées. Toutes les deux bénéficions ainsi de ces nouveaux enseignements. Au plus profond de moi, je me sentis dans une compassion infinie. Ayant perçu l'importance de cette leçon, je remerciai alors les âmes de tous ceux qui avaient participé à ma transformation. Dans mes pensées, je remerciais le notaire, le banquier, Gégé, les instances officielles à qui nous avions affaire et qui, par leur rôle ingrat, m'avaient offert la possibilité de me libérer de mes entraves. Par ailleurs, voyant Génaël effondré sur le fauteuil ou affalé dans le lit, je n'étais inquiète d'aucune façon. Je savais qu'il était en train d'endurer de profondes déprogrammations tout en téléchargeant les programmes de sa génétique future. Malgré cela, l'apprentissage n'était pas encore abouti, puisque par peur d'être révoqué, l'esprit de l'Amasutum semblait ne pas vouloir se retirer de l'expérience de l'incarnation dans mon corps d'humain. Il aura fallu un autre choc pour que sa conscience parvienne à se retirer de ma psyché. Mais pour le moment, nous ne développerons pas le sujet. Il s'agit donc de comprendre qu'au plus nous, humains, nous nous déprogrammons de nos mémoires passées reptoïdes ou de celles du futur anthropique des humanoïdes gris, au mieux nous incarnons véritablement notre âme dans notre réalité humaine, ici présente. Dans la réalité actuelle, l'humain est déjà dépourvu des écailles du reptilien, de la pilosité simiesque ou de la police du gris. Dans un futur proche, il le sera également de l'esprit du prédateur. et n'étant plus parasité par ses croyances et ses programmes de peur, de contrôle, de suspicion envers autrui, l'humain pourra redevenir légitimement réalisateur, créateur de sa réalité. C'est ainsi qu'après la démission de Gégé et nous interrogeant sur la raison de la vétusté du bâtiment de la future école-lieu, nous avons questionné l'ange pour savoir si oui ou non nous devions abandonner le projet. Voici sa réponse. C'est à vous de choisir, sachant que la finalité de ce lieu qui vous est proposé ne sera pas tout à fait comme vous l'imaginez encore pour le moment. Vous ne la découvrirez seulement qu'au fur et à mesure que vous continuerez à suivre les signes, même si certains d'entre eux ne seront pas toujours très aisés à décrypter. D'autant plus que confondus dans ce quorum SDS et SDA, vous serez de plus en plus nombreux à participer à l'aventure. Des cartons rouges devront parfois encore être distribués, mais ils le seront toujours pour le plus grand bien de tous. Cette bâtisse vous a été réservée parce qu'elle restera à l'écart du tumulte que génèrent les réajustements énergétiques de cette fin des temps. Elle reste entièrement à rénover puisqu'elle est l'emblème d'un travail de métamorphose intérieure que vous serez amené à réaliser en tant que groupement d'âmes. De plus, vous ne pourrez ouvrir les portes que de l'intérieur, ce qui est tout un symbole. Vous serez donc amené à travailler vos muscles pour produire de nouvelles mitochondries qui, elles, participeront à régénérer l'ADN. Et par la patience, par l'activité physique et doté de vos nouveaux codes, vous renforcerez la charge des transposons. Les transposons ou éléments génétiques transposables peuvent se déplacer, s'exciser et s'insérer dans un génome participant à son évolution, à l'augmentation de sa taille et à la diversité biologique. L'insertion et le départ des transposons conduisent à des modifications dans la séquence des chromosomes comme des duplications, des inversions, des délétions. Vous travaillerez également l'équilibre relationnel et l'échange d'informations avec ceux que vous rencontrerez et qui seront appelés à participer à l'aventure. Vous aurez donc tout le temps qu'il vous faudra pour réaliser votre œuvre. Toutefois, cela ne signifie pas qu'elle sera achevée un jour. Il s'agit donc de bien comprendre que la rénovation de ce bâtiment est avant tout un prétexte pour rassembler ceux qui accepteront de faire leur propre travail intérieur vers la conscience SDA. Ils seront amenés à créer de nouveaux types de liens humains qui feront évoluer la conscience vers une nouvelle forme de solidarité et vers les nouvelles réalités du service d'autrui.
Question à l'ange. Pourquoi Gégé a-t-il si rapidement changé de point de vue et de costume par rapport à son impulsion de proposer au Léo d'acheter la maison pour l'association?
Tout bonnement parce que son esprit rationnel et suspicieux l'a empêché de saisir la finalité du projet Écoléo. Car la vraie question que tout donateur ou investisseur financier devrait se poser serait non pas « La maison me plaît-elle? Serait-elle assez grande pour moi ?» ou bien « Qu'ai-je à gagner en participant à ce projet ? » Mais elle devrait être « Aurais-je le courage d'apporter ma pierre à l'édifice ?» Autrement dit, accepterais-je de participer à la grande aventure Léo ? À m'ouvrir au service d'autrui sans demander de contrepartie ? En me promettant simplement d'ouvrir ma conscience en travaillant par exemple avec les miroirs Léo ? La maison n'est donc pas pour que tout le monde s'y agglutine. Elle restera simplement le symbole d'une nouvelle force de conscience créatrice, d'une nouvelle réalité née de l'impossible. Car les candidats à ce formidable travail viendront de partout et s'installeront peu à peu dans les villages alentours afin de repiquer les pousses dans le jardin de la nouvelle communauté de conscience SDA. C'est pourquoi aucune personne ne devra devenir propriétaire du lieu. Et nul ne pourra prétendre d'un quelconque droit de regard préférentiel en fonction de l'argent qu'il injectera dans le projet. Mais quelqu'un devra poser la première pierre, et ce quelqu'un sera un agent du service d'autrui qui fera partie du corps enseignant de l'Écoléo. D'autres feront partie des gardiens ou des permanents du lieu. C'est pour cette raison que l'association responsable de sa gestion devra garder un statut à but non lucratif, ce qui, de toute manière, est incompatible avec un esprit au service de soi.
L'ange résume ainsi les symboles par lesquels nous avons été conduits au bâtiment de la future Écoléo, au col du paradis.
Un col symbolise une route qui serpente entre les montagnes, entre les sommets des vagues, les sommets de l'onde. La maison à rénover ne serait-elle pas aussi symbole de votre transformation intérieure qui vous autoriserait à traverser vos vieilles mémoires et libérer vos âmes? Le nouveau monde se révélerait comme une création de votre groupe psychique provenant de la nouvelle conscience de quatrième densité. Il prendra forme lorsque le groupe d'âmes aura réussi son initiation de passage en cette quatrième densité. Puisque la conscience crée la gravitation qui, elle, modifie la conscience, cette loi, une règle quantique, devient exponentiellement puissante en réseau ou en groupe. Maintenant que les programmes ancestraux et les fuites d'énergie ont commencé à se résorber grâce à vos partages de groupe, les conjonctures difficiles vont s'améliorer rapidement. Ensuite, lorsque sera venu le moment de la récolte des âmes, qui, à travers ce lieu école au col du paradis, se matérialisera dans une nouvelle réalité de quatrième densité, le quorum d'initiés SDA s'autorisera à rétablir l'équilibre SDS-SDA sur la nouvelle Terre. Et tandis que dans la fourmilière des humains sans conscience tout partira en vrille, la bâtisse de l'école-lieu servira de maison témoin de votre cheminement dans votre nouvelle réalité.
Alors comment pourrions-nous imaginer le fonctionnement de l'école-lieu?
La piste à suivre sera semée d'indices qui se révéleront seulement lorsque les phares éclaireront votre route. Vous la découvrirez au fur et à mesure que vous commencerez véritablement à cheminer ensemble. Il est donc question d'oser faire des choix maintenant, car ce sont précisément ces choix qui vous ouvriront l'accès à la quatrième densité SDA. Comprenez bien que dans cette nouvelle dimension d'existence, vous ne serez plus esclave du monde, mais vous en serez les magiciens. Les archontes opérateurs, ceux qui vous susurraient à l'oreille, « As-tu bien réfléchi? Es-tu sûr de toi? C'est impossible, tu vas te faire avoir. » Et qui vous insufflent ainsi quantité de peurs illégitimes, se seront tout bonnement retirés de votre psyché pour retourner sur leur propre ligne temporelle. Car en actant vos choix, maintenant, vous vous autoriserez à redevenir des hommes libres et confiants, des hommes vrais. L'ange nous avait donc laissé entendre que nous devions commencer à cheminer vers l'inconnu à l'exemple des passagers d'une voiture dont les phares éclairent la route au fur et à mesure qu'ils avancent. C'est-à-dire que nous devions apprendre à progresser à la lumière de l'information lorsque nous commencerions à collaborer les uns avec les autres. Il nous avait également été précisé que dès ce moment-là, qui correspond à des fréquences de pensée de la quatrième densité de réalité, nous ne serions plus esclaves du monde, mais en serions les magiciens. Même si ce principe est intellectuellement simple à comprendre, il est néanmoins très difficile à mettre en application dans ce monde en folie. Comment pourrions-nous devenir magiciens de notre vie lorsque jusqu'à présent nous avions perpétuellement souffert en ce bas monde, un monde divisé par les consciences prédatrices SDS, dans lequel nous demeurions malgré nous, mais qui ne correspondait absolument pas à nos aspirations profondes ni à l'éthique de notre âme? Et même si nous avions déjà eu quelques aperçus de la manière dont opérait la guidance de notre soi supérieur intemporel, nous avions encore beaucoup de mal à imaginer comment serait notre réalité de demain. L'ange nous a laissé sous-entendre que le monde matériel serait au service de notre élévation en quatrième densité et qu'il ne restait qu'à cultiver la confiance en notre guidance. Des questions restent toutefois en suspens quant aux possibilités de la quatrième densité. Peut-être qu'un jour pourrions-nous voler ou même voyager à bord d'engins antigravitationnels comme l'avaient fait nos prédécesseurs? Quand et comment arrêterions-nous de vieillir? Même si les Cassiopéens confortent les propos de l'ange, nous devons pour le moment rester plus pragmatiques et devrions d'abord nous poser une première question. Comment obtiendrons-nous les moyens de créer l'écoléo, le symbole de l'arche, qui servira à nous débarquer sur les rives de la nouvelle Terre? En lui glissant cette question, l'ange nous avait simplement montré l'image d'un monticule de pierre. En fouillant sur Internet, nous avons vu que ces tas de cailloux sont généralement dénommés cairns ou montjoie. En voici l'extrait. L'étymologie de ce mot hongrois est pour le moins discutée. Dans la plupart des cas, il s'agirait d'un dérivé du germanique mungawi, protection du territoire, qui aurait été mal traduit par le latin mons gaudi, mont de la joie. À moins que pour certains d'entre eux, il ne s'agisse vraiment que d'un monde distingué par la joie de l'avoir gravi, d'y avoir gagné une bataille, ou de s'y souvenir d'un autre événement glorieux en référence au mont Gaudiyi, proprement montagne de joie, paradis, nom donné par les pèlerins à la montagne de Rama, située au nord-ouest de Jérusalem. L'œil, mont-joie, est attesté par le FEW au sens de monticule servant d'observatoire, tas de pierres ou édicules pour indiquer le chemin ou pour garder un souvenir glorieux, et sa traduction en occitan mont-joia par le DOF l'est au sens de bloc de pierre servant de borne ou de limite ou consacrant un souvenir. Voir le lien sur notre site. La légende à propos des cairns ont fait naître sous la plume de Flaubert l'expression « ajouter sa pierre à l'édifice ». Nous comprenions bientôt que pour former un monticule de pierre, quelqu'un devait se décider à poser la première pierre afin que, comme le disait Gustave Flaubert, d'autres puissent rajouter la leur à l'édifice. Enseignés par l'ange depuis des années, nous avons compris depuis un certain temps déjà comment, à notre échelle personnelle, nous savons surpasser les doutes. La connaissance des lois alchimiques nous l'enseigne chaque jour. Mais nous ne pouvions persuader quiconque comment lui devrait procéder, car beaucoup trop de monde doute encore de son pouvoir créateur. C'est pour ces mêmes raisons que le collectif Léo semble encore pour le moment suspendu dans l'antimatière. Ceux qui possèdent les pierres, mais qui sont encore captifs de leur esprit cartésien, calculateur, hésitant, sceptique, seront-ils prêts à outrepasser le moment venu, leurs peurs, leurs doutes et leurs innombrables limitations pour enfin commencer à ramener toute la puissance de leur esprit créateur dans la matière? Nous savons que la conscience humaine, elle-même fractale de la conscience du Créateur, est naturellement et légitimement souveraine de sa création. Nous savons aussi que certaines entités qui représentent notre passé nous freinent dans sa réalisation. Nous sommes également conscients que même si les archontes opérateurs qui sans cesse susurraient quantité de craintes, d'incertitudes, d'hésitations, de confusions à nos oreilles se seraient retirés de notre psychisme pour retourner sur leur propre ligne temporelle, nous ne pouvions pas si aisément nous libérer des marques laissées par l'illusion hyperdimensionnelle. Car ces stigmates psychiques, qui pour le moment encore nous empêchent de percevoir comment notre création légitime prend place dans sa dimension de réalité, sont encore actifs. L'ange, tout comme les Cassiopéens, nous avait conseillé de cultiver la confiance et de commencer à fonctionner en groupe afin de nous soutenir les uns les autres. Ce n'est qu'ainsi, en groupe de familles d'âmes, que nous parviendrons ensemble à nous guérir et cicatriser des empreintes de ces implants retirés de notre génétique humaine. Sans relâche, l'ange nous répétait « Apprenez d'abord à être ensemble avant de vouloir faire. » Car chaque étape de votre création nécessite de revisiter vos mémoires limitantes de troisième densité.
L'ange reprit.
Les maîtres de l'amour du soi à travers autrui nous avaient enseigné la voie du service de soi SDS. Désormais, ce sont les maîtres de l'amour d'autrui à travers le soi qui vous retourneront leur enseignement. Ceci pour que dans le cycle prochain, un certain nombre de maîtres de l'entropie puissent reprendre la voie du service d'autrui. Ainsi, les enseignants de l'amour d'autrui, du service d'autrui, seront ceux qui, de manière complètement désintéressée, auront fait passer les intérêts communs avant leurs propres intérêts. Ils auront refermé la porte derrière laquelle se trouvait le regardé par les dieux serpents et cette fois-ci ne l'auront pas franchi. Vous pouvez donc commencer à percevoir comment le monde actuel s'est laissé prendre par le pouvoir et l'argent. Les maîtres du service de soi ont utilisé le don créateur d'autrui, de l'humain, pour s'approprier sa création et ils l'ont fait par l'appât du gain par l'argent. La quatrième densité, encore en gestation pour le moment, ne pourra plus admettre une quelconque disharmonie dans la création de l'être humain véritable, pourtant en devenir. Cette nouvelle réalité sera soutenue par les missionnaires volontaires qui, durant tout leur cursus d'incarnation, se seront sacrifiés afin de préserver la connaissance. Connaissance qui autorisera les initiés humains qui l'appliquent à être détachés vers les mondes de quatrième densité. Et cette moisson des âmes fera intervenir ceux que Ours Blanc dénommait les Kachinas. Les Kachinas ne sont pas des comètes comme certains le prétendent. Les Kachinas ne sont d'autres que vous-même dans le futur, des altères voyageurs temporels qui, par les vortex dimensionnels, prenant l'apparence de comètes, parcourent les routes du temps. Car l'ange est un voyageur temporel, le soi supérieur et hors du temps. Ce qui signifie également que les messages transmis en votre conscience par les anges Léo, le subconscient collectif des Léo, sont précisément tels les crop circles envoyés à travers les fenêtres spatio-temporelles ou portes dimensionnelles depuis des dimensions de conscience provenant d'un espace-temps futur qui existe déjà. Ce qui signifie clairement qu'il n'y a pas lieu de soutenir l'illusion d'un quelconque espoir que la situation terrestre change. L'espoir n'est qu'un futur non résolu, puisqu'il est fonction de votre perception linéaire du temps qui, en elle-même, est une illusion. Vous ne pouvez pas changer le futur de l'humanité, car personne ne peut changer la ligne temporelle de ceux qui ne veulent pas en changer. Vous ne pouvez que modifier votre propre futur. Et ce n'est pas parce que dans ces grandes lignes, le futur est déjà inscrit que dans votre présent, vous pouvez vous contenter d'attendre. Vous devez l'accomplir, le mettre en pratique, intégrer les informations que votre soi futur vous transmet. Parce que si vous vous contentez d'attendre, en persistant dans vos peurs, de rester indécis, de cultiver vos doutes ou au contraire votre impatience, votre futur ne se réalisera que très lentement ou même ne pourra rester que potentiel. Il s'agit donc, encore une fois, de bien comprendre que cette loi quantique qui dit que la conscience crée la gravitation qui, elle, modifie la conscience. Puisqu'il reste observateur de l'étendue de l'espace temporel et de ses potentiels, le soi supérieur, votre conscience future qui s'exprime à travers l'ange, vous guide continuellement afin que par les lois de la gravitation et de l'intention, vous arriviez à préfabriquer un potentiel qui, par résonance magnétique, modifiera peu à peu votre réalité actuelle. Mais ceux qui n'auront pas confiance à la guidance de leur soi futur resteront immanquablement sous l'influence d'une conscience prédatrice-opératrice qui, par toutes sortes de peurs, d'indécisions, de besoin de se rassurer, empêche l'entité corps-âme-esprit humain de se propulser vers les densités supérieures. Poursuivons encore, Carlos Castaneda révèle dans son livre « Le feu du dedans ». Les guerriers qui succombent au coup d'un petit tyran du menu fretin sont annihilés par leur propre sens de l'échec et de l'indignité. Cela signifie à mes yeux une haute mortalité. À quoi mesurez-vous la défaite? Quiconque se met sur le même plan que le petit tyran est vaincu. Agir en colère, sans contrôle ni discipline, n'avoir pas d'endurance, c'est être vaincu. Que se passe-t-il après la défaite des guerriers? Ou bien ils se regroupent, ou bien ils abandonnent la quête de la connaissance et rejoignent les rangs des petits tyrans pour la vie. Alors que les petits saboteurs caméléons des uns et des autres rejoindront les rangs des prédateurs pour un nouveau cycle de troisième densité au service de soi, les Léos ont décidé de se regrouper. Les petits saboteurs ayant abandonné la quête de la connaissance au profit du savoir, rejoindront donc les rangs des petits tyrans pour un nouveau cycle d'apprentissage sous la gouverne des entités prédatrices. Car il n'y a qu'une seule chose qui rend un rêve impossible à réaliser, c'est la peur de l'échec, dixit Paolo Coelho. Transmis par Sand
et Genève.